une histoire particulière. C'est l'été et je vous emmène en voyage. Pendant une heure, une histoire particulière va vous faire découvrir un lieu et son histoire. C'est la collection Été 2019 d'une histoire particulière. Dernière semaine de notre périple, nous avons fait un grand tour. 8 lieux vous ont été proposés. 8 histoires, dont voici la dernière. Parce que très bientôt, ce sera la rentrée. Il faudra ranger les maillots et sortir son cahier. Alors allons visiter un collège. Certes, il n'est pas très près, mais il vaut le détour. Le collège Sévenol se situe sur la commune du Chambon-sur-Lignon et fut créé par 2 pasteurs en 1938. Ils avaient envie d'offrir aux enfants des environs la possibilité d'accéder à un meilleur savoir, plus ouvert, plus universel, innovant dans les méthodes de son apprentissage. Avec 10 000 m² de bâtiment, l'établissement a accueilli jusqu'à 600 élèves. Des profs de toutes les couleurs, confessions et origines. Certaines années, on a compté jusqu'à 45 nationalités différentes. À l'évocation de ce lieu, c'est l'unanimité chez tous ceux qui ont vécu l'expérience. On y a appris, bâti les fondements de nos personnalités, ri, grandi et su qui nous étions, ici, nos plus belles années. Alors suivons tout de suite Alain Lefkovitch et Rafik Zénine.
Esprit qui les fit vivre, anime leurs enfants, anime leurs enfants, pour qu'ils sachent les suivre.
Salut, montagne bien-aimée, et sacrée.
Collège Chevenol et Chambon-sur-Lignon, une histoire particulière d'Alain Lefkovitch et Rafik Zénine.
Chaque soir, si vous regardez la météo, vous pouvez voir où est la source de la Loire. Et au bout de la Loire, il y a le Chambon-sur-Lignon.
Le Chambon-sur-Lignon est connu pour son collège, est connu pour son lieu de mémoire, est connu pour son protestantisme.
L'esprit idéal du collège Chevenol, c'est un établissement pour la paix, l'international, et pour avoir une certaine spiritualité.
Il y avait des Américains, des Chinois, des Djiboutiens, des Ivoiriens, des Camerounais, des Tchadiens, des Portugais, des Turcs. Toutes les nationalités étaient réunies. C'était vraiment un creuset. Pour celui qui venait avec des a priori, franchement, repartait l'esprit complètement changé, ouvert au monde. C'est 50 ans de la vie d'un collège qui se résume par ces mots-là. Bien-être, convivialité, joie de vivre, entraide.
Je ne saurais pas l'expliquer, mais cet attachement au collège Sénol, il est... Enfin, c'est... Je ne sais pas. C'est mystique. C'est un éternel sujet. C'est l'identité. C'est même pesant, parfois. C'est pesant parce que c'est le passé. Bah, le passé, c'est toujours lourd, en fait. Voilà.
Pourquoi il a perdu sa splendeur, cet établissement ?
Il n'a pas perdu de sa splendeur. Je crois qu'il a perdu un peu des sous. Non, je crois que jusqu'au bout, tout le monde a cru et croit encore à tout ce que ça nous a transmis. Ça existe. Jusqu'au bout. Enfin, ça existe encore. Ça existera. Ça existe chez tous les gens qui sont passés par le collège Sénol.
Il était une fois, au cœur de la Haute-Loire, au perché dans les montagnes d'Auvergne et protégé par une nature capricieuse, rude et austère, un établissement scolaire avant-gardiste, pionnier et novateur, animé par des pasteurs protestants, André Trocmé et Édouard Theiss, qui avec 4 professeurs et 18 élèves, y assurèrent la toute première rentrée scolaire en septembre 1938. Le collège Chevenol venait de voir le jour, tandis que s'entamait une des pages les plus glorieuses de l'histoire de ce petit village du Chambon-sur-Lignon. Dans quel granit fut taillé ce peuple vainqueur? Quel sang avait-il dans les veines? Quel amour avait-il au cœur, se demande-t-on dans la Sévenol, cet hymne protestant, cette Marseillaise huguenote devenue le chant de ralliement des 25 000 enfants qui, durant 76 ans, génération après génération, expérimentèrent ce lieu et ses méthodes d'enseignement. Les plus belles années de leur existence, à en croire les très nombreux témoignages arrivés du monde entier sur la page Facebook des anciens et amis du collège Chevenol, comme Pierre Rousset, Anne Hollard, Antoine Catala, Josiane Escott et Sadaf Kolestan Manval.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour,
Josiane.
Enchanté.
Bonjour.
Bonjour.
Anne Hollard.
Bonjour.
Bonjour, Sadaf.
Enchanté.
Bonjour.
Bonjour, Alain. Enchanté.
Bonjour. Pierre.
Vous venez d'où tous là?
Alors, moi je viens de Saint-Étienne. Là tout de suite.
Moi
là,
du Mazé à côté. Mazé Saint-Voix.
Au mois de mars, juste à côté. Au mois de Valence. Enfin, ça fait à côté de Valence.
Moi c'est mon lieu de naissance, le Chambon-sur-Union.
Oui, moi aussi. Moi c'est un peu loin. Moi je suis d'Iran. Donc je suis une ancienne élève. Je suis arrivée au Chambon à l'âge de 13 ans et je suis restée. Je me suis mariée avec un Chambonnais et je fais ma vie à Saint-Étienne maintenant.
Moi, j'habite en Pointillé ici. On a une maison qu'on ouvre de temps en temps, mais j'ai jamais perdu le lien avec le Chambon. Donc là, on est sur la place du village, à côté de la fontaine. C'est vraiment le centre du Chambon. Et on va monter, visiter le collège. Voilà, c'est à 1,5 km, quelque chose comme ça.
C'est une route qu'on connaît par cœur.
Alors, il y a Antoine aussi qui
on
vient
a eu. Donc, voilà. Quand on était à l'internat.
Antoine Catala.
Enchanté.
Oui. Josiane et Pierre, ils sont restés jusqu'à la fermeture en tant qu'encadrement.
D'abord, moi, en tant qu'élève, et puis ensuite, voilà, depuis en 76 des cours de vacances et 78, voilà, jusqu'à la fermeture.
Il faut marcher. Hein.
Vous savez où c'est?
Vous êtes passé déjà, non?
Vous
êtes
passé? Non, on vous attendait.
C'est un village qui s'inscrit d'abord dans un territoire qui fait à peu près 500 km², qu'on appelle la montagne autrefois et qu'aujourd'hui on nomme plutôt le plateau.
Aziza Grille-Mariotte, responsable du lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon.
Qui est désenclavé au début du XXe siècle par l'arrivée du train. Et auparavant, il est traversé par des chemins sur lesquels vont passer les colporteurs, qui en fait sont des porteurs de la Bible. Donc ce sont des gens qui viennent évangéliser. Donc c'est un lieu où la réforme s'implante au XVIe siècle. La réforme va rester très vivante durant la période des guerres de religion, parce qu'on est sur un territoire isolé, donc... Voilà, sachant qu'on est à proximité d'un territoire très catholique, puisqu'on n'est pas très loin du Puy-en-Velay. Donc c'est un lieu dont la géographie explique beaucoup de choses en réalité, puisqu'on est sur un plateau difficile d'accès. Et même pendant la guerre, il faut imaginer qu'il y a 6 mois de neige. Ça veut dire que la milice, la Gestapo, ne peut pas monter. En 1938, la création de l'école Nouvelle Sévenole, elle résulte d'une démarche qu'a entreprise Charles Guillon de créer un établissement public ici sur le territoire pour que les enfants du plateau puissent poursuivre leurs études sans aller dans le privé catholique à Tournon pour les filles et au Puy-en-Velay pour les garçons.
Donc Charles Guillon, l'ancien maire de...
Le maire du Chambon. À l'époque, il est maire. Donc l'éducation nationale, ou plutôt le ministère de l'instruction publique, ne veut pas parce qu'il n'y a pas suffisamment d'enfants. Donc ce projet-là échoue. Et à ce moment-là, André Trocmé, qui est arrivé ici en 1934, lui suggère de créer un lycée privé, protestant, avec deux modèles. Modèle italien, puisque sa femme est italienne, et le modèle de l'école des Roches, puisque un cousin, je crois, de Trocmé... était le directeur de l'école des Roches. Trocmé est un militant de la paix. Donc l'idée, c'est de faire cohabiter des jeunes de nationalités différentes pour créer la paix. C'est un peu, on va dire que c'est un peu l'exemple de ce qui va être fait après la guerre avec les instituts franco-allemands. Hein. Mais évidemment, ils sont très novateurs. Et à ce moment-là, André Trocmé sollicite Edward Teiss, qu'il a connu aux États-Unis. Il a rencontré aussi au Mouvement international de réconciliation. Donc ce sont des gens qui sont sensibles à la non-violence et aux questions de la paix hein, dans l'entre-deux-guerres, sachant qu'Edward Teiss était en Afrique missionnaire. Voilà. Donc il fait venir Edward Teiss, dont l'épouse est américaine. Donc c'est intéressant de voir qu'André Trocmé est à moitié allemand, il a une femme italienne, et Edward Teiss a une épouse américaine. On voit déjà que rien que dans leur configuration familiale, il y a un microcosme, on va dire, international, qui arrive au Chambon quand même, ce qui évidemment va avoir des conséquences pour la suite. L'arrivée de la guerre en 39-40 va aussi faciliter l'arrivée de nouvelles personnes qui vont devenir des enseignants. Donc ces nouvelles personnes, ce sont des anti-nazis, autrichiens, allemands. Pour vous donner une idée, l'épouse du pasteur Trocmé, Magda Trocmé, va enseigner l'italien. L'épouse du pasteur Theis va enseigner l'anglais. Vous voyez, donc c'est vraiment évidemment très artisanal comme, comme fonctionnement. Et puis dans un deuxième temps, on a des cadres de l'enseignement supérieur français qui ont été licenciés parce que juifs, qui vont venir ici se cacher et qui vont, en échange de la protection, enseigner au collège.
Mon idée, mais c'est la mienne, c'est que Trocmé étant pratiquement le maître d'un pays monoconfessionnel, à peu de choses près, s'est retrouvé un petit peu dans la situation de Calvin à Genève, trois siècles avant, pour créer ici une école.
Alain Arnoux, ancien pasteur du Chambon-sur-Lignon de 1983 à 1991.
Je dirais une sainte mafia chrétienne, protestante, pacifiste, internationale, de diplomates, de théologiens, d'hommes d'affaires, etc., qui se connaîtraient et qui auraient une influence très large. Je crois qu'il y avait cette vision, cette utopie à laquelle beaucoup de gens se sont prêtés jusque dans les années 1950 quand même, au Chambon.
Pourquoi vous dites une utopie ?
C'était une belle utopie, peut-être que ça s'est heurté à certaines réalités, au caractère des hommes aussi, aux conditions économiques aussi. Le rêve s'est un petit peu estompé quand même à partir des années... Il est toujours resté présent quelque part, mais peut-être que le collège s'est banalisé, je dirais que peut-être il s'était banalisé aussi en boîte à bac à une certaine époque. Et peut-être qu'on a un petit peu perdu ça de vue. Trocmé était quand même quelque part un prophète. Theis était aussi un prophète. Mais les prophètes, ils n'ont pas toujours raison. Quelquefois, ils ne sont pas compris dans leur temps.
Il est là ? Ça, c'est...
Moi, ce qui me surprend le plus, c'est d'arriver dans un endroit vide.
Oui, oui,
le côté vide, je m'imagine avec des élèves partout, partout. Même les dernières années, il y avait moins de personnes, mais il y avait cette vie. Et le côté vide, j'ai un peu de peine. Moi, je me suis obligée de venir parce que, bon, suite à la fermeture, quand même, j'avais besoin de penser que cet endroit était riche. De toute façon, il y avait laissé une richesse dans les cœurs. On a la preuve, quand même. Et que ce n'était pas que les bâtiments, que le lieu. Qu'il y avait autre chose qui avait été mis dans les têtes et dans les cœurs des gens. Okay. Mais le côté un peu défiguré, ça a été un peu les dernières années du collège. Hein, on a coupé les arbres et tout ça.
Ouais, parce qu'en fait, pour nous, le collège commençait là où vous voyez la borne incendie, là, beaucoup plus loin. Le collège Sévenol commençait là. Il y avait le panneau collège Sévenol qui était accroché là. Et tout ça, c'était des forêts. Il y avait une petite maison, la maison de l'infirmerie qui était là. Enfin bon, c'était un truc qui était monté sur pilotis en bois basique, quoi. Il n'y avait pas du dur là, quoi. Et tout le collège était là-bas, en fait. C'était ça. J'arrive de mon Iran natal. J'ai les gens du Chambon-sur-Lignon. J'ai des Parisiens. J'ai des Vietnamiens. J'ai des Africains. C'était le bonheur, quoi.
Qu'est-ce qu'une Iranienne vient faire au Chambon-sur-Lignon ?
Alors, une Iranienne vient continuer son apprentissage de la langue française parce que sa mère a décidé qu'il fallait qu'elle apprenne le français. Donc moi, quand je suis arrivée ici, je ne savais pas ce que c'était les godasses, une clope, une baffe. Mais par contre, je savais parler français, tout à fait littéraire.
Même au Chambon, le collège Sénol n'était pas isolé du monde. C'était un collège qui était dès le début, qui avait une vocation internationale et qui était membre d'un réseau qui s'appelait l'Association des écoles internationales. Et que dans ce cadre-là, il y a toujours eu des échanges entre le collège Sévenol et un certain nombre d'établissements scolaires, aussi bien aux États-Unis que partout dans le monde, en Allemagne, à Singapour, etc. Et en Afrique, il y a une vraie tradition d'échanges internationaux autour du collège Sévenol. En dehors du fait que ça a été créé avant la guerre, mais que ça a bénéficié tout de suite, vu les circonstances, d'un apport de gens qui venaient de l'extérieur, et notamment de réfugiés juifs, mais pas que, et puis qu'il y avait des connexions entre les pasteurs qui créent le collège et les États-Unis, il y a une vraie dimension internationale et pacifiste.
«
Je suis le fils d'un pasteur protestant togolais. En plus, j'avais un problème de santé, j'étais asthmatique chronique.
Robert Lasset, ancien élève, ancien professeur de philosophie et ancien directeur du collège Chevenol.
Par un concours de circonstances, on a indiqué à mon père qu'il y a un établissement au Chambon-sur-Lignon qui pouvait m'accueillir et que d'autre part, il y avait une série de maisons de repos pour les enfants ici qui permettaient de, en altitude, de résorber un peu cette question de santé. C'est comme ça que je suis arrivé en 67.
Alors vous vous souvenez de cette arrivée ici ?
Ah oui, je me souviens très bien de cette arrivée qui fut pour moi un choc climatique, un choc culturel. Je ne m'imaginais pas cette espèce de changement brutal. Ma première réaction que j'ai eue, et ça me fait rire, sourire aujourd'hui, c'est de dire... Oh là là, que de blanc, que de blanc, que de blanc, parce que j'étais dans un environnement qui était, c'est vrai, très francophile, mais du point de vue des habitudes comportementales, qui n'est pas du tout ce que je connaissais avant, quoi. C'est le français que j'ai appris, moi, en Afrique, était un français très châtié. J'arrive ici, je trouve des jeunes qui parlaient un français dont je ne comprenais pas toujours le sens. Comme mon père a fait ses études de théologie en France, il connaissait de nom le Chambon-sur-Lignon. Il savait que dans cette Haute-Loire très catholique et très traditionnelle, il y avait quelques espaces comme ça, qui sont des sanctuaires protestants. Ce qui a été important, c'est précisément de ne pas se sentir dans un univers exclusivement protestant. Et qu'il y avait là des gens de toute tradition. J'ai eu un maître d'internat qui était d'origine hindoue. J'ai eu un prof d'allemand qui était juif. Bon, tout ça se faisait de manière tout à fait normalement.
Le plateau a toujours été, comme il a toujours été, une terre d'accueil.
Gérard Bollon, historien du Chambon.
Très tôt, des persécutés de la vallée du Rhône ou de Cévennes viennent se réfugier ici sur le plateau. Et puis le grand moment, c'est lorsque ce plateau devient vraiment une terre d'accueil pendant la guerre, notamment la Seconde Guerre mondiale, où on voit arriver justement par le petit train, quand la fumée se dissipe sur le quai de la gare, on voit encore une flopée de gamins qui ne parlent pas français, qui sont allemands, polonais, qui sont néerlandais, belges. Et vraiment, là, on se sent quand même dans un lieu un peu particulier. Il y a des Espagnols qui sont venus très tôt, dans les années 1938. Et là encore, c'est pas deux ou trois. En grand nombre. C'est déjà cette notion un peu de tour de Babel. Elle se prolonge jusque dans les années 1980, on va dire. Et cette fois-ci, ce sont des réfugiés qui ont fui leur pays. Et il y a sur le plateau un cadre, un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. Et là encore, on entend toutes les langues.
Bah donc là, on est sur le chemin qui va de l'internat et des bâtiments administratifs anciennement, à la ferme qui est le réfectoire, donc qui est quand même le centre pour les internes, c'était le passage obligé, quoi. Et au-dessus du réfectoire, il y avait une salle qui était devenue une salle de spectacle, qu'on appelle la salle François Loup. Sur la gauche, les grands bâtiments, là, c'était l'internat de filles, en fait. Donc il y a eu une aile là-bas qui a été rajoutée en 89. Donc là, il y avait les terrains de tennis qui sont devenus un parking. Le stade là-bas, le gymnase, sur la droite, et le bâtiment scolaire un peu en haut. Et le collège continue au-delà, là-bas.
On est sur 12 hectares là, de terrain, donc on pouvait se promener.
Et tout ça, les élèves le faisaient quotidiennement, parce que les filles, elles partaient de là, elles allaient prendre leur petit déjeuner. Elles montaient ou là ou plus haut pour les cours. Le foyer était là, donc souvent elle repassait ici. Donc voilà, c'était un des trajets à peu près habituels d'un élève.
Pendant la guerre, avant la guerre déjà, vont se développer ce qu'on appelle les mouvements de jeunesse.
Aziza Grill-Mariott, responsable du lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon.
Avec des leaders protestants, on entretient dans ces mouvements de jeunesse d'ailleurs un certain esprit de résistance. Et en août 42, le 10 août 42, vous voyez ici, Georges Lamirand, qui est secrétaire général au sport au gouvernement de Vichy, vient de façon tout à fait officielle visiter ces mouvements de jeunesse pour voir ce qui s'y passe. La journée se termine par un culte au temple. Et à la sortie du culte, il y a un groupe de jeunes collégiens de l'école Nouvelle-Sévenole qui vont interpeller le ministre et qui vont dénoncer la rafle du Veldiv en expliquant au ministre que si... Donc on pourrait lire la lettre.
Nous tenons à vous faire savoir qu'il y a parmi nous un certain nombre de juifs. Or, nous ne faisons pas de différence entre juifs et non-juifs. C'est contraire à l'enseignement évangélique. Si nos camarades, dont la seule faute est d'être nés dans une autre religion, recevaient l'ordre de se laisser déporter ou même recenser, ils désobéiront aux ordres reçus, et nous nous efforcerions de les cacher de notre mieux. Nous ignorons ce qu'est un juif, nous ne connaissons que des hommes.
Donc voilà, ça vous donne un peu une idée, ça vous résume bien l'esprit de résistance des jeunes. Et cet esprit, il est vraiment entretenu par les leaders que sont l'ancien maire, les pasteurs, le médecin, le docteur Roger Le Forestier, le directeur de l'école. Vous voyez, c'est toutes les élites, en fait, qui sont vraiment impliquées. Voilà. Parce que des fermiers protestants qui cachent des juifs, il y en a eu dans les Cévennes, il y en a eu à Dieulfi, il y en a eu même pas protestants en Bretagne. Enfin, vous voyez, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Il y en a eu dans toute la France, il y en a eu en Corrèze. Mais la particularité vraiment du territoire, c'est cette espèce de petite république chrétienne, en quelque sorte, d'abord qui a connaissance très tôt de la réalité du nazisme. Ils ont des infos suffisamment étayées et suffisamment inquiétantes très tôt pour savoir que quand on déporte les Juifs, c'est pas pour qu'ils aillent faire du travail forcé en Pologne. Voilà. Cette visite du 10 août 42 va être suivie le 25 et 26 août 42 de la rafle de la zone sud. Toutes les préfectures de la zone sud organisent cette rafle. Sauf qu'ici, quand ils arrivent, il n'y a plus personne. Alors le gendarme dit, ils sont... oui, mais c'est pas une prison ici, hein, les gens vont se balader. Ensuite, ils arrivent dans les maisons d'enfants du Secours Suisse, où là, ils ont affaire à Auguste Bonny, qui est le directeur des maisons, qui est suisse, et qui est très proche de Trocmé et de Theis, parce qu'il est aussi objecteur de conscience. Donc, vous voyez que tout se relie. Hein. Et quand les gendarmes veulent rentrer, hein, vous ne pouvez pas rentrer. Les maisons sont financées par la Suisse et par la Suède, deux pays neutres, vous ne pouvez pas rentrer. Donc, les gendarmes repartent. Donc, évidemment, les gendarmes, ils ont les listes. Ils savent qui est où, en réalité. Assez récemment, j'ai retrouvé en fait des documents d'archives où Auguste Bonny en fait a été menacé. Il y a eu des menaces très fortes sur la population. On a inscrit des placards où les gens étaient menacés d'arrestation s'ils venaient en aide aux Juifs, parce qu'après ils ont fouillé toutes les fermes et il a fallu à ce moment-là organiser les chemins de fuite avec Mireille Philippe pour emmener les gens en Suisse. Donc vous voyez que les choses ne se sont pas passées de façon aussi simple.
Il y a eu des tensions.
René Rivière, ancien du Sévenol et héritier d'une vieille famille du plateau.
Car être non-violent pacifiste est une chose différente qu'être maquisard réceptionnant des armes. Chacun restait dans son camp. Tout était clandestin. Personne ne parlait de ça à l'époque. Il s'est passé que le pasteur Trocmé est resté pasteur du Chambon en chair et en os. En chair, vous voyez ce que je veux dire. Et que Madame Trocmé a continué à recevoir des gens qui se cachaient au presbytère et que le maquis... Alors, il y a eu un détail dont vous avez peut-être entendu parler. Certains maquisards qui étaient un peu des ultras, ont voulu les objets du temple pour présenter le pain et le vin. Et que le pasteur Trocmé aurait dit « Moi, non, je ne me sépare pas de ces objets et je ne m'occupe pas des gens du maquis et de la résistance. »
Tout le monde n'a pas été forcément d'accord avec la manière de voir, en particulier de Trocmé, pendant la guerre.
Alain Arnoux.
Trocmé avait une vision pacifiste. Il voulait faire une résistance, sans l'appeler comme ça, non-violente. Et ce n'était pas forcément l'avis de tout le monde, dans la jeunesse en particulier, ni parmi ses collègues du plateau, parce qu'il y avait beaucoup plus de pasteurs sur le plateau à cette époque-là que maintenant. Et bien sûr, il y avait la question des politiques, puisque le Chambon était un endroit où il y avait une cellule communiste active, où il y avait une section socialiste active aussi. Tout le monde n'était pas pieusement au temple à attendre les directives le dimanche matin. Et cela a provoqué, je pense, quelques tensions qui se sont manifestées peut-être aussi au moment de la libération et peut-être très rapidement après. Le fait que M. Trocmé ait eu une mère allemande et eu toute une partie de sa famille allemande, que Mme Trocmé était italienne, ce sont des choses qui ont pesé aussi. Et le fait que M. Trocmé, à la libération, soit allé s'occuper des prisonniers allemands qui étaient pas très loin d'ici, au château du Pont de Mars, ça a été relativement mal reçu par certains. Le miracle, si on peut dire ici, ça a été que quand même il y a eu cette espèce de contrat avec la résistance armée pour qu'il n'y ait pas d'actes violents, mais c'était aussi pour protéger les réfugiés qui étaient là, pour éviter la rafle catastrophique qui aurait vraiment fait déporter beaucoup de monde. Le plateau était connu avant Teïssé Trocmé. Dire le plateau, c'était une espèce de terre sainte pour toutes sortes de gens, à Saint-Étienne, à Lyon, mais dans le reste de la France, parce que c'était connu comme une terre particulière où le peuple protestant était encore puissant, fort, où les temples étaient pleins le dimanche, où les gens se conduisaient moralement, etc. Et il y avait tout un passé, et ce passé-là, moi-même, quand je suis arrivé ici en 1983, très impressionné.
En 88, en Israël, à Yad Vashem, on a honoré, Yad Vashem a pris la décision, fait unique dans le monde, jusqu'à quelque temps, eh bien, Yad Vashem décide de décerner un diplôme collectif, un diplôme d'honneur, qui convient tout à fait aux citoyens, même aux enfants aujourd'hui, car on évoque pas simplement le Chambon, mais aussi les villages alentours, qui ont eu une action similaire au village du Chambon. La différence, elle tient peut-être au nombre de rescapés ou de sauvés, mais l'esprit est le même.
Alors, qu'est-ce qu'il est inscrit sur ce diplôme d'honneur ?
Le peuple d'Israël rend hommage aux habitants du Chambon-sur-Lignon et des communes voisines qui sont portées à l'aide de Juifs durant l'occupation allemande de 40 à 1944 et les ont sauvés de la déportation et de la mort. Obéissant à leur conscience, ils ont mis leur propre vie en danger en recueillant dans leur ferme, dans leur foyer, des persécutés et en pourvoyant à leurs besoins par amour du prochain. Ils ont aussi accompli la prescription divine « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », illustrant la parole du Talmud « Quiconque sauve une vie sauve l'univers tout entier ». Les hauts faits des habitants du Chambon-sur-Lignon et des communes voisines resteront gravés dans la mémoire du peuple juif.
Ben on y va, hein, puis on aura le temps de parler là-haut.
On monte tous là-dedans alors du coup.
Ouais, ouais.
Allez. Il y en a un qui va devant.
Je vais filmer.
Collège Chevenol et Chambon-sur-Lignon, une histoire particulière d'Alain Lefkovitch et Rafik Zénine.
Ça vous fait quoi de reprendre cette route?
Moi, j'ai beaucoup de mal. Moi, ça fait très très longtemps que je ne suis pas montée au collège. Et c'est juste parce qu'il y a d'autres personnes avec moi aujourd'hui que j'y vais. Parce que j'ai vraiment beaucoup de mal.
C'est lamentable. C'est en train de se casser la gueule, on dirait.
T'as un suiveur.
Moi, je suis arrivé en 73 comme élève.
Antoine Catala.
Je suis resté jusqu'en 76 et je suis revenu en 79. Et après, j'ai travaillé à l'internat, et puis j'ai travaillé à l'entretien, et puis j'étais directeur d'internat. Et je suis resté administrateur de ce collège jusqu'à la fin, puisque je suis toujours administrateur de ce collège, membre d'un conseil d'administration qui ne s'est pas réuni depuis que le collège a fermé. En gros, à la fermeture du collège, il y a eu 6 mois où il ne s'est pas passé grand-chose, et au mois de février 2015, le collège a été acheté par des artistes chinois qui ont comme vocation d'en faire un parc d'art avec des sculptures, des choses comme ça. C'est des artistes, et pour le moment, une des manifestations, c'est qu'il y a un restaurant chinois qui est intermittent et qui s'ouvre dans l'ancien réfectoire des élèves.
Donc là, on est dans le hall du bâtiment scolaire, c'est ça?
Alors, il y a eu plusieurs entrées, mais la dernière, à la fin, l'entrée se faisait là. Et il y avait le secrétariat d'Arlette qui faisait les absences, enfin les billets d'absence et tout ça, qui était là.
Josiane Escott, ancienne du Cévenol.
Et les salles sont réparties tout autour.
Avant, il y avait un panneau qui disait que ce bâtiment avait été construit par les camps du service civil international dans un esprit international chrétien pour la paix.
Alors en bas, il y avait le labo de physique et de chimie. Je ne sais pas si on peut y accéder par là.
Alors là, on est devant la plaque justement qui a été posée à l'inauguration du bâtiment scolaire, qui date du 25 mai 1953.
Francis Deval, président de l'association des anciens et amis du collège Chevenol.
Et qui précise simplement que cette maison, construite grâce au travail et aux dons d'un grand nombre d'amis, architectes, ouvriers du Chambon, camp du conseil œcuménique des églises, administrateurs, professeurs, élèves, anciens, parents d'élèves du collège, églises congrégationaliste et presbytérienne, école et collège des USA, service Quaker, association des amis américains du collège Chevenol, a été consacrée à l'éducation chrétienne internationale pour la paix. Dans ce texte, sur cette plaque, on a vraiment toute la base du collège, c'est-à-dire une œuvre collective tournée vers une éducation chrétienne, vers la paix, qui a été vraiment le fondement de l'école.
Quand il y a eu la véritable libération...
René Rivière, ancien du Cévenol, héritier d'une des plus anciennes familles du plateau.
Le collège a bénéficié d'une sorte de plan Marshall américano-protestant qui a ramassé des fonds. Les Quakers américains ont donné énormément d'argent. Les Juifs qui étaient partis en Amérique et ceux qui avaient pu s'y sauver ont donné énormément d'argent. Et ils ont pu acheter, c'est le collège Cévenol qui a pu acheter une propriété, une ferme, à Luquet, qui a été les premières pierres du collège Cévenol de l'après-guerre, avec certains bâtiments en dur, d'autres en préfabriqué, et qui étaient des dortoirs ou des salles de classe, qui ont été construites, c'était ça qui était merveilleux, par des gens du collège en vacances, ou des anciens, comme moi, qui venaient passer leurs vacances au Chambon. Alors on n'appelait pas ça des camps de construction. Les camps, ça rappelait trop l'Allemagne. On appelait ça les chantiers de construction du collège Cévenol. J'avais 15 ans. Voilà. Et ce collège était dirigé depuis le début par un pasteur, Theis, qui avait 8 filles, dont 5 ou 6 aux États-Unis, parce que Madame Tace était américaine. Elle était quand même au Chambon en tant que femme de pasteur et s'occupait des affaires de son mari. Et il est resté directeur de ce nouveau collège qui s'est créé après la Libération. Et il y est resté jusqu'en 1960 ou plus, 63. Et là, ça a été une période alors florissante, car il y a eu véritablement des internats de garçons, des internats de filles.
Avec la construction des internats, il n'y a plus de vie des collégiens dans le village.
Aziza Grille-Mariotte, responsable du lieu de mémoire du Chambon.
Les collégiens sont sur un campus extérieur au village, qui est quand même relativement éloigné du village. Moi, j'habite ici depuis le début des années 2000. Donc, quand je suis arrivée, évidemment, le collège Saint-Nol était tout à fait en activité. Et le collège Saint-Nol ne faisait pas partie véritablement de la vie de la commune. Il avait son autonomie, sa propre vie. Évidemment, on voyait les jeunes descendre dans le village, aller s'acheter des canettes de bière, voilà, mais et aller s'acheter des fringues dans les boutiques du Chambon. Mais il n'y avait pas une vie, si vous voulez, c'était, voilà, c'était le collège Saint-Nol. Et évidemment, c'était une activité économique importante. Parce que c'était un établissement privé, et donc les gens qui venaient de l'extérieur avaient de l'argent. Ça générait une activité économique assez, assez importante.
Alors, on a dans les...
Francis Deval.
Dans les objets qu'on a pu récupérer du collège, on a le gong de Luquet. En fait, Luquet était le bâtiment où il y avait le réfectoire. Et le gong de Luquet est un engrenage d'embrayage de camions qui a été monté par le professeur Pierre Vernier, qui s'occupait de la technique, et qui permettait, on va essayer d'en remettre un coup, voilà, qui permettait au réfectoire d'annoncer qu'il fallait ou se taire, ou un anniversaire, ou des consignes qui étaient à diffuser aux élèves. Le mobilier, les armoires, on est ici devant une armoire traditionnel, je dirais, de l'internat de garçons. Pour information, l'internat de garçons, lorsqu'en 1946, le terrain de Chaumier est acheté, il n'y a donc pas de bâtiment sur ce terrain. Et par contact d'amis américains, le collège fait l'acquisition de 4 bâtiments qui viennent de Suède. Et c'est donc Joe Howell, un ami américain qui s'occupe d'ailleurs de l'opération, qui va en Suède, qui ramène avec le petit train et 60 wagons de matériel, et qui construit, alors ce qu'Edward Tace, le cofondateur avec André Trocmé, appelait les petites maisons préfabriquées, et que les élèves appelaient les baraques. Donc on avait dans les baraques ces armoires individuelles, et puis Roger Mondon a, dans les années 50, créé un mobilier qui était tout à fait avant-gardiste, qui était un lit qui se repliait avec, une fois replié, la possibilité d'avoir un bureau qui se dépliait sous le lit.
Mes parents étaient des Quakers.
Philippe Barnard, ancien du Cévenol.
Et le American Friends Service Committee, c'est-à-dire l'association pour les aides à l'étranger des Quakers aux États-Unis, on donnait des fonds au Collège Chevenol pendant les années 50 pour bâtir le campus de Luquet. Mes parents étaient à l'époque, pendant les années 60, ils étaient très actifs dans le mouvement pour le Civil Rights Movement et contre l'impérialisme et tout ça. Donc, ils étaient engagés un peu. Mon père enseignait à l'université Rutgers dans le New Jersey. Et il avait un collègue à Rutgers qui avait envoyé sa fille à l'école. Et au moment où il a appris que le American Friends Service Committee donnait de l'argent au collège, il était convaincu que c'était une bonne idée à cause de la connexion Quaker. Oui. À cette époque-là, il n'avait jamais été en France. Et donc, il avait l'idée que ce serait une excellente idée d'envoyer son fils en France.
Vous vous souvenez de votre arrivée au Chambon sur Lignon?
Parfaitement. C'était un peu misérable. C'était au mois fin de septembre, commencement d'octobre. Il y avait un brume. C'était très nuageux et pluvieux tout le temps. Et pendant les premières quelques semaines, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait d'être dans un tel endroit? Mais quoi, après un, deux, trois mois, alors ça marchait très bien. À cette époque-là, je crois qu'il y avait un certain esprit de corps qui animait la direction et les enseignants du collège, n'est-ce pas? C'était toujours la première génération des gens qui ont fondé le collège et qui l'animaient toujours à cette époque-là. Il y avait une histoire, mais à l'âge de 13 ans, on ignore tout ça. Et je suis parachuté parmi tous ces jeunes gens dans l'internat en français. Donc je me suis occupé surtout à apprendre le français au commencement. Et ce n'était que lentement que je me suis rendu compte de l'histoire.
Déjà, dans l'histoire, c'est de voir la population. Cette population qui, moi, au milieu des années 80, donc 40 ans après, 50 ans après la guerre, qui était cette population accueillante.
Yves Toali Seri, ancien du Cévenol.
Parce qu'elle a traversé dans son histoire donc, le regard des autres, le jugement des autres. Elle s'est développée là-dedans. Elle a trouvé son identité là-dedans. Donc, c'était des gens qui ne te regardaient pas en tant qu'étranger. Ils te regardaient en tant que personne qui venait chez eux prendre part à leur histoire. Et puis le mythe, c'est tout ce qu'on nous racontait sur ces enseignants, sur ces habitants qui, dans le froid, dans la neige, se cachaient, construisaient des petites huttes dans la forêt pour pouvoir y cacher ceux qui fuyaient la guerre, ceux qui étaient persécutés par la guerre au nom d'une certaine idéologie. Voilà, donc le mythe, est-ce que c'est réellement un mythe? Peut-être que c'est l'histoire qui a fait, à force d'être racontée, se travestit, mais la substance reste parce qu'ils ont été vraiment héroïques.
J'ai l'impression que quand on ne fait pas attention par rapport à l'histoire, on a tendance, au fond, à mythifier un peu.
Robert Lasset, ancien élève, ancien professeur de philosophie et ancien directeur du collège Chevenol.
C'est comme un enfant qui mythifie sa jeunesse un peu parce que, en bien ou en mal d'ailleurs, hein, parce que il y a vécu des choses formidables ou au contraire il y a vécu des choses désagréables. Moi je considère que, à titre personnel, il y a beaucoup de nostalgie et la nostalgie quelquefois ne restitue pas toujours les choses dans leur propre réalité. Moi je me suis mis toujours un peu à distance de la nostalgie. Parce que il faut garder toujours dans l'analyse des événements une certaine distance pour mieux éclairer ce qui a été. Parce que le collège Chevenol n'était pas l'écart de la société. Et que tous les travers de la société pénétraient aussi dans l'établissement d'une certaine manière. Hein. Je crois que c'est. Moi, je ne participe pas à cette mythification parce que. Je crois que Paul Ricoeur disait que il faut se méfier des mémoires, que les mémoires sont souvent des mémoires subjectives, que chacun a sa mémoire, mais si on veut faire œuvre d'objectivité, il faut aller vers l'histoire. L'histoire, elle dépasse la mémoire. L'histoire, c'est la construction au fond de ce qui peut être scientifique, et nos mémoires souvent trahissent un peu le réel, parce que chacun s'agrippe un peu à sa propre mémoire.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'héritage se perdait. Vous dites la société, les affres de la société ont fini par pénétrer le collège Chevenol. Jusqu'à présent, ici, on est quand même sur un plateau assez protégé par la nature, tout simplement. Un lieu difficile d'accès, on comprend pourquoi ça a été un lieu de refuge pour un certain nombre de gens. C'était terminé, cette idée de refuge?
Mais je crois que si nos parents nous laissent un héritage, si on ne sait pas le faire fructifier, il peut être perverti, on peut en faire un usage tout à fait négatif. C'est là où je crois que le rôle de l'éducateur, c'est à la fois avoir l'héritage en repère, mais ne pas le figer dans un passé immuable. L'héritage doit être confronté aussi au monde contemporain. L'héritage doit être utilisé pour voir comment il peut s'adapter à un monde qui évolue. Et incontestablement, je crois que ce n'est pas dire quelque chose d'iconoclaste que de dire que à un moment donné, il y a eu un décalage. Il y a eu un décalage parce que une mémoire qui se fige, qui se contemple et qui se dit on a été, je caricature un peu. On ne peut pas dire quand on dit on a été, on a été, on a été. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on a fait? Et je crois que toute l'histoire, et Même chef d'établissement, j'en avais conscience que c'était un défi qu'il fallait que je relève, mais suis-je arrivé, je ne suis pas certain. C'est une valeur d'éducation, ce n'est pas qu'une valeur d'éducation proclamée, c'est aussi une valeur d'éducation mise en acte. Or, pour la mettre en acte, il faut qu'il y ait des acteurs de l'éducation, adultes, parents, et des acteurs aussi élèves. Est-ce qu'à un moment donné, le passé a su parler au présent, quoi ?
Les gens en dehors du travail, ils n'avaient rien.
Nicolas Pignon.
Il n'y a pas de télé, il n'y a pas un peu la radio, c'est tout. Il n'y a rien d'autre que le paysage et la dureté du travail. Paysan. Alors naturellement, le collège est en dehors de ça, mais c'est dans cette population-là qu'on est. Et le paysage physique, et le Chambon de ces années-là, il y a une librairie qui doit faire 3 mètres sur 4, un café, un tout petit hôtel et une pâtisserie, et basta, il n'y a rien du tout. Bon, alors c'est désert, c'est quand je dis un paysage d'une sévérité. J'y suis retourné cet été, j'étais jamais retourné au Chambon depuis, donc j'avais le trac. Et en arrivant là-bas, qu'est-ce que je vois Saint-Tropez, c'est-à-dire c'est devenu la banlieue estivale de Lyon, de Saint-Étienne. Ils ont construit des petites maisons partout en face de la pension où j'étais, qui était une sorte de tour de béton planté au milieu de rien. Tout d'un coup, il y avait un petit supermarché en face. Ben, j'étais choqué. Je ne comprenais pas. Et tout d'un coup, je vois 3 librairies, des cafés partout, une population très très bourgeoise, des gens qui ont des résidences secondaires, qui ont des belles bagnoles, qui ont... À l'époque, il n'y avait rien. Quand j'étais môme, je crois que la seule voiture qui arrivait à marcher dans la neige, c'était la 2 chevaux. Ce monde-là a disparu. Et le petit train a disparu. Et j'ai eu un moment de déphasage absolu. C'est-à-dire que le paysage, le Chambon des Justes a disparu. Totalement disparu.
1938-1970, ce sont souvent des pasteurs qui sont soit directeurs, soit présidents du conseil d'administration, avec une connotation protestante marquée.
Gérard Bollon, historien du Chambon.
Ce n'est pas un collège laïque, anodin, donc là, il y a cet aspect-là. 1970, ces anciens pasteurs, ces anciens guides du collège Chevenol sont à la retraite, et arrive une flopée encore une fois de directeurs. Entre 1970 et 2010, on a eu 11 directeurs. Le premier, c'est Roger Hollard, qui dit « mais le collège ne peut plus être avoir une autonomie comme cela ». Il faut signer un contrat avec l'État.
Pourquoi Cévenol ne pouvait plus avoir cette autonomie ?
Parce que pécuniairement, c'est trop compliqué. Roger Hollard convainc son conseil d'administration qu'il faut signer un contrat avec l'État. La vocation un peu spirituelle, ou en tout cas confessionnelle, des anciens directeurs n'est plus de mise au collège Cévenol dans les années 70. Il y a une forme, c'est un grand mot, déchristianisation, mais il y a une forme de laïcisation qui se profile, et au cours des années 70, 90, après, ce collège n'a plus sa vocation spirituelle. Roger Hollard avait, je le pense, certainement raison d'accueillir beaucoup plus d'enfants qui sont en déshérence ou en difficulté de comportement ou de relation avec le milieu familial ou leur vie citadine. Et donc là, Roger Hollard a beaucoup œuvré pour prendre cette tranche d'enfants qui sont en difficulté, et quand on dépasse la possibilité d'être attentif à leur éducation, ça se dégrade.
Le point sur l'information avec Valentin Dunat, bonjour.
Bonjour Annie. Un corps calciné qui pourrait être celui de la collégienne disparue en Haute-Loire a été retrouvé hier soir. Les gendarmes ont fouillé dans une forêt proche du collège suite aux indications données par un lycéen de 17 ans. Ce jeune homme connu des services de police pour des faits de violence a donné quelques éléments.
Ce serait un lien avec un événement qui a eu lieu il y a très très peu de temps dans les voies du collège.
Oui, donc il y a eu cet élément tragique, effectivement, en 2011, où une de nos internes a été assassinée par un autre élève. Les habitants du Chambon-sur-Lignon et le collège Sénol, en hommage affectueux à Agnès Marin, décédée le 16 novembre 2011, à l'âge de 13 ans. Son enterrement a eu lieu le jour de ses 14 ans.
Il y a eu ce crime en 2011 qui a forcément, j'imagine, provoqué l'accélération de la fermeture du collège.
Moi, j'étais au conseil municipal dans cette période-là. C'était fini déjà. La dette était tellement... était par rapport, même si la commune a fait la garantie d'emprunt, c'était déjà fini. Mais peut-être que ça... sur le plan communication, ça a été terrible. Ouais. Donc ça a peut-être achevé le collège Chénol, peut-être. Mais pour dire, vous voyez, c'était une utopie, le collège Chénol. Pas du tout. Mais on arrive à quelque chose de terrible qui marque et les élèves, et les profs, et la population du bourg, et tous ceux qui suivent ça par les médias. Donc bien sûr que ça l'achève, le collège Chévenol.
Collège Chévenol, c'est une douleur.
Alain Arnoux, ancien pasteur du Chambon-sur-Lignon, de 1983 à 1991.
Ça a été une douleur longtemps, parce que peut-être justement on n'avait plus beaucoup de relations, parce qu'entre le village et le collège, les relations s'étaient un peu distendues, parce qu'on n'était pas forcément d'accord avec tout ce qui se vivait, se passait dans le collège. En tout cas, moi, à mon époque, il était beaucoup de questions d'argent à ce moment-là. Et puis tout ce qui va avec, des trafics autour, etc., enfin, des élèves démolis... qui arrivaient démolis, pour qui on faisait du bon travail, il y avait du bon travail qui se faisait, mais le fait qu'on puisse pas avoir de rapport avec eux, c'était quand même difficile. Et puis, la manière dont le collège s'est terminé, c'est une douleur aussi. Ce qui s'est passé, je crois, c'est que le collège, il y avait quand même toujours des gens qui étaient habités, parce qu'ils avaient aussi été élèves, là, ou enseignants qui étaient habités de la vision de départ, sans doute transformée, qui avait évolué, ce qui est tout à fait normal. Mais il y a eu d'autres phénomènes, c'est-à-dire par exemple aussi à partir d'un certain moment, il est devenu très difficile pour des élèves étrangers, en particulier africains ou autres, d'obtenir des visas pour venir faire des études en France. Et ça, je crois que ça a contribué très largement à couler le collège Chévenol, et d'autres établissements, qui étaient un établissement international, avec le bac international, etc., etc., parce que ce collège ne pouvait tourner qu'aussi avec des internes qui payaient un écolage quand même qui n'était pas négligeable.
Ce collège, qui est devenu un collège important, qui a accueilli jusqu'à 500 enfants.
Éliane Vauquier, maire du Chambon-sur-Lignon.
À la fin, ça s'est terminé avec entre 70 et 80 enfants. Donc, vous voyez, c'était trop petit, c'était devenu trop petit pour continuer à vivre. Donc, progressivement, l'école s'est rétrécie. Et puis, il faut dire aussi que... peut-être la pension qui était une évidence dans l'éducation des enfants l'est beaucoup moins aujourd'hui.
Alors en 2014, effectivement, le collège Chévenol ferme ses portes. Et alors, il faut trouver un moyen de faire revivre ces différents bâtiments. Quel projet, quel avenir, comment on pense la reconversion de ces bâtiments?
C'est loin d'être évident. Le parc fait plus de 10 hectares, 15 dans mon souvenir. Il y a 10 000 mètres carrés de bâtiments. Tout ça est vide. Donc, où va devenir vide? Parce que c'était quand même, j'allais dire, c'était dans l'air hein, depuis, moi, je dirais, au moins 5 à 10 ans. Il y avait une espèce de réflexion là-dessus. J'avais réuni des personnalités qui viennent ici en vacances, des chefs d'entreprise, des avocats, et un ami ambassadeur, qui était ambassadeur de France en Chine, et qui un beau jour me téléphone et me dit « Bon, ben voilà, Eliane, j'ai une proposition qui va te surprendre. C'est un jeune couple chinois que j'ai connu quand j'étais ambassadeur à Pékin et qui cherche un parc pour présenter des sculptures. Est-ce que ça t'intéresse ?» J'ai dit « Écoute, oui, tout m'intéresse. » J'ai vu arriver ce très jeune couple, puisqu'elle avait 35 ans et lui 37, qui ont eu un coup de foudre pour ce lieu. Donc, ils se sont portés acquéreurs et ils ont obtenu, enfin, c'est eux qui ont été désignés. Ils ont donc acheté au mois d'août, ils ont signé chez le notaire au mois d'août. Puis, avec un projet qui était à côté du projet de parc de sculpture, un projet de centre de formation, majoritairement pour des jeunes chinois, au métier des beaux-arts, design, mode, métier du luxe en gros. Et puis, ben, depuis, nous sommes un peu, comment dire, en attente de ce qui va sortir. J'aimerais voir émerger quelque chose.
Le collège ne pouvait pas continuer. Dans la mesure où il y avait le téléphone portable, l'arrivée de ces instruments, voilà. À partir du moment où le collège était relié au monde extérieur, sa fonction de lieu refermé sur l'étude, le comportement, la rencontre des uns et des autres, elle n'avait plus vraiment de sens. Et j'ai appris qu'au moment de sa fermeture, pendant cette histoire tragique, là, ils étaient 90. On était 500 à l'époque où j'y étais. Donc voilà, mais c'est pas un monde qui pouvait survivre à la modernité des échanges. Si jamais vous étiez au Chambon et que vous pouviez aller sur Internet, c'est mort. Ça n'a plus aucun intérêt d'être là, où on se demande qu'est-ce que je fais ici. Voilà. Et donc, dans la mesure où cet isolement était rompu par les machines, hein, par le téléphone, par ceci, par cela, par l'ordinateur, on n'a plus aucun intérêt à être sur place. Et curieusement, ce qui me reste du Chambon, surtout ces quelques figures, c'est un sens du tragique. Parce que je trouvais que c'était un pays tragique.
Merci à Pierre Rousset, Anne Hollard, Antoine Catala, Josiane Escott, Sadaf Colestan-Manval, Nicolas Pignon, Eliane Vauquier, Alain Arnoux, Aziza Grille-Mariotte, Gérard Bollon, Robert Lasset, Yves Taoli-Séry, Philippe Barnard, René Rivière et Francis Deval. Merci enfin à tous ceux, anciens du Cévenol, qui ont répondu à mes sollicitations et que je n'ai pas pu rencontrer. Collège Cévenol et Chambon-sur-Lignon, prise de son Cyprien Creton, réalisation Rafik Zénine, mixage Éric Villenfin, coordination Christine Bernard, une histoire particulière d'Alain Lefkovitch.
Histoire particulière, c'est fini. Belle rentrée à tous. Je vous retrouve samedi et dimanche prochain à 13h30. Nous jouerons aux échecs, mais c'est une autre histoire.